Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous allons passer à la lecture des textes en vue de la prédication. Alors il y en aura quatre, on va faire un petit peu des allers-retours dans la parole. Le premier se trouve dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans Malachie, au chapitre 3, versets 23 et 24. Donc non seulement le dernier livre, mais les derniers versets de l'Ancien Testament. Voici, moi-même je vous enverrai le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils, et le cœur des fils à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et on passe dans le premier livre du Nouveau Testament, cette fois dans Matthieu, chapitre 11, les versets 13 à 15. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. Et maintenant, on retourne en arrière dans le livre de Daniel qui se trouve juste après Ézéchiel. Et cette fois, on va au chapitre 2, versets 31 à 45. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de pierre, de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer, de même que le fer pulvérise et rompt tout, il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication est digne de confiance. Et une dernière lecture, l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 4, les versets 4 à 5. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption.
Sans témoin, il n'est pas possible de connaître une histoire, comme la lecture de la Bible sans le Saint-Esprit n'est pas possible à connaître. Nous comptons donc sur son œuvre, qui est le témoin de notre foi dans notre cœur. de mai 2019 à janvier 2021, nous avons parcouru ensemble les 12 prophètes qui terminent les écrits de l'Ancien Testament dans la plupart de nos Bibles en français. Alors si Malachie est peut-être, et c'est mon avis, le dernier livre écrit dans l'Ancien Testament, c'est de toute manière certain que c'est le dernier prophète qui a apporté la parole de Dieu au peuple, avant celui qu'il annonçait comme étant l'Élie qui devait venir, que Jésus a identifié comme étant Jean-Baptiste. Entre les deux, 400 ans de silence. Ces 400 ans sont souvent en fait figés dans notre cerveau, un peu comme un trou noir, un no man's land, une page blanche entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais si Dieu ne parle plus, agit-il encore? C'est le titre de cette dernière prédication de cette série sur les 12. Et nous allons dans un premier temps nous rappeler par résumé le message des 12 prophètes. Et nous verrons une progression tout en constatant une récurrence de certains thèmes. Ensuite, nous parlerons de cette période de silence dans laquelle Dieu a été actif. Et nous terminerons par un point qui indique que le temps est accompli, tout est prêt. Voilà les trois points que nous aurons ce matin. Donc premièrement, le message des 12. Donc je vais simplement vous donner le résumé de chaque prophète sans grand commentaire, simplement pour nous imprégner et nous rappeler les prédications que nous avons eues sur chacun de ces prophètes. Donc vous avez des petits papiers aussi à l'intérieur de ce document où vous avez le résumé de ces prophètes. Je l'ai mis de manière séparée aussi pour que vous puissiez le garder dans vos Bibles si vous le voulez. Ça vous permet d'avoir un petit résumé de ces 12 prophètes. Il est présenté dans l'ordre chronologique que je vous avais présenté alors. Abdias signifie serviteur et adorateur de l'Éternel. Abdias, avec le jugement des Édomites, nous indique que Dieu va certainement juger ceux qui ne se détournent pas du mal et va restaurer son peuple. C'est toujours actuel. Ensuite, Joël. Joël signifie l'Éternel est Dieu. Joël, avec ses sauterelles, peut-être que vous vous souvenez, et le jour de l'Éternel, nous indique comment nous devons réagir face à une catastrophe naturelle ou face à une situation catastrophique dans le monde, tel que nous le vivons d'ailleurs, par la repentance et en comptant sur la promesse de restauration de l'Éternel. Voilà ce que nous avions vu dans Joël. Jonas signifie colombe. Jonas nous présente un récit véridique rempli d'enseignements symboliques et typologiques qui nous parle d'un Dieu compatissant qui veut que nous le devenions aussi. C'est un peu la question qui termine le livre de Jonas. Où Dieu est compatissant, il veut que Jonas le devienne aussi comme nous d'ailleurs. Ensuite, Amos signifie qu'il porte les fardeaux. Amos transmet le rugissement de Dieu à Israël qui se croit en sécurité dans sa richesse mais qui a complètement perdu sa relation avec Dieu, opprimant les pauvres et pratiquant une religion formaliste. Que Dieu nous en garde. Osée signifie salut et délivrance. Vous avez dans Osée, vous avez Josué, par exemple, il y a Osée dedans, c'est salut. Salut vient l'Éternel, ou Jésus aussi. Donc Osée signifie salut ou délivrance. Osée, marié à une prostituée qui commet adultère, qui se prostituera encore par la suite, et qu'il rachète, présente l'ardente passion de Dieu et sa juste colère, son infinie tendresse aussi pour son peuple qu'il aime et qu'il veut voir revenir à lui. Michée signifie « qui est comme l'Éternel ». Michée présente la justice et la compassion de Dieu par ses avertissements et ses promesses. C'est la justice, la miséricorde, l'humilité qui sont demandées par celui qui place son espérance, qui pardonne et prend plaisir à la bienveillance. Après ces 6 prophètes, c'est la fin du royaume du Nord. La puissance assyrienne viendra et disséminera dans le monde cette partie du Nord d'Israël, et il n'y aura pas de retour commun pour eux par la suite. À cette époque-là, nous avons Ésaïe qui prophétise aussi, et ensuite viennent les 3 prophètes avant la fin du royaume de Juda. Il s'agit de Nahum, Naoum signifie « celui qui console, qui a compassion ». Et Naoum annonce la destruction certaine de Ninive par le juste jugement de Dieu, inflexible face au mal, tout puissant et bon. Et c'est une consolation pour ceux qui ont subi la terreur des Assyriens et un encouragement à chercher refuge en lui. Et là, nous avons un basculement d'empire qui est donc annoncé par Naoum, entre l'empire babylonien et l'empire médo-perse, nous en parlons. Ensuite, Sophonie signifie l'Éternel a caché, gardé ou protégé. Sophonie, par un cri déchirant et violent, annonce le jour de l'Éternel, fruit du mal commis. Il veut réveiller le peuple et réactiver ce jour, en décrivant ce jour, il est encore temps de se repentir. N'hésitez pas, contemplez la restauration promise par la présence du roi. Un appel vraiment du cœur à la repentance de Sophonie. Habakkouk, qui signifie embrasse, qui étreint, qui lutte, Habakkouk est un homme qui lutte et qui est submergé par le mal qu'il voit et l'inaction de Dieu qu'il interroge. Pourquoi ? La réponse du jugement de Dieu par une nation pire le rend perplexe. Il réfléchit à Dieu, prie et comprend que sa joie se trouve en l'Éternel. Jérémie vivra la déportation ainsi que Daniel et Ézéchiel qui prophétisent durant cette période. C'est le temps du royaume de Babylone avec Daniel à la cour de Nebuchadnezzar jusqu'à Belshazzar. Et ensuite, c'est le royaume médo-perse quand Daniel est mis dans la fosse aux lions. Et ensuite, Cyrus qui donne l'ordre aux Juifs de reconstruire le temple. C'est le retour de l'exil. Et là, nous retrouvons deux prophètes qui sont présents une décennie plus tard. Et ensuite, le dernier prophète une centaine d'années plus tard. Agée et Zacharie sont les deux prophètes qui sont présents à ce retour d'exil. Donc Agée signifie en fait, par les prédications d'Agée, l'Éternel veut réveiller son peuple qui a abandonné la construction de son temple. Il confirme sa présence, annonce la gloire dans ce temple et stimule la pureté et promet un avenir. Ça c'est Agée qui stimule cette construction du temple. Et nous avons Zacharie qui signifie l'Éternel se souvient. Alors que Zacharie encourage le peuple qui reconstruit le temple, Dieu se fait connaître par 8 visions et Zacharie a le privilège de parler de la première venue et du retour glorieux du Messie. Ainsi, c'est deux prophètes qui étaient là lors de la reconstruction du temple. Et ensuite, dans l'histoire, il y a l'histoire d'Esther dans le royaume perse, à la cour d'Assuérus, dont le nom grec est Xerxès, puis Esdras et Néhémie, qui sont les amis d'Artaxerxès I, qui donc succèdent à Xerxès. Et nous avons, à ce moment-là, ensuite, donc le dernier prophète, Malachie, qui signifie « messager ». Dernier prophète qui parle à son peuple que Dieu choisit d'aimer. Son amour est mis en doute, vous souvenez peut-être la dernière fois, le peuple dit « mais tu dis que tu nous aimes ?» Ah bon ? Son amour est mis en doute. Le respect absent, l'alliance méprisée, pourtant, Dieu annonce un précurseur des messagers de l'Alliance qui vient purifier son temple et déverser sa bénédiction sur celui qui revient à l'Éternel. Quelques minutes pour faire tous ces prophètes. Donc on a pour chacun une prédication. On peut revenir là-dessus et les relire aussi évidemment. Et les plusieurs thèmes reviennent. Le thème du jour de l'Éternel qui contient 3 sujets ou 3 thèmes. Vous vous souvenez, jour de l'Éternel? Il y a dans jour de l'éternel un J dans jour, un L dans l'éternel, puis un R dans l'éternel, donc J, L, R, c'est les 3 éléments qui font partie du jour de l'éternel, le jugement, la libération et la restauration. Et pour avoir une pensée équilibrée sur le jour de l'éternel, nous avons besoin de ces 3 éléments. Donc le thème du jour de l'éternel qui contient les 3 thèmes, jugement, libération et restauration, est récurrent, et nous avons vu qu'il s'agit d'une perspective à plusieurs niveaux. Des accomplissements présents, on a vu même des prototypes du jour de l'éternel, dans un temps à venir, à la croix, Jésus-Christ a vécu ce jour de l'éternel, ce jour de jugement, de libération et de restauration, et au jugement final, qui est devant nous encore. Voilà, donc le jour de l'éternel est un thème récurrent dans ces 12 prophètes. D'autre part, les thèmes de la bienveillance de Dieu et de l'appel à la repentance sont également souvent présents. La bienveillance de l'éternel et l'appel à la repentance. Tout à l'heure, si vous avez été un peu attentif à tout ce qui a été dit de ces prophètes, c'est revenu régulièrement. Comme cela doit être encore le cas lorsque nous prêchons aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'Évangile. La bienveillance de l'Éternel et l'appel à la repentance. Mais alors, que s'est-il passé dans ces 400 ans de silence prophétique, où plus rien ne fut ajouté à la Bible? Alors nous l'avions déjà mentionné dans une prédication sur ces 12 prophètes, que cela fait penser aux 400 ans de silence entre Joseph et Moïse, où Dieu préparait une délivrance extraordinaire, qui préfigurait la délivrance des 400 ans après Malachie. Ainsi, la délivrance de l'esclavage de l'Égypte est extraordinaire et grandiose. Ce n'est qu'une pâle ombre de ce que Jésus-Christ est venu accomplir 400 ans après Malachie. Il est venu nous délivrer du péché. Et il est venu établir son royaume. Il est venu nous délivrer du péché. Et une question qui est très importante, que chacun doit se poser. Donc voilà, maintenant je vais vous la poser, écoute bien. Es-tu délivré du péché? C'est fondamental. C'est fondamental. Et si l'on ne peut pas répondre par un oui clair, et savoir que nos cœurs sont purifiés, blancs comme neige, par l'œuvre de Christ, eh bien je te rappelle la bienveillance de l'Éternel. Et je t'appelle à repentance, à venir à lui et croire que Christ a tout accompli. Mais passer de Malachie à Jean-Baptiste et Jésus-Christ, c'est comme passer de l'époque des puritains avec John Bunyan dans les années 1600 directement à l'an 2000. 1600 à l'an 2000. Donc sans passer par les réveils avec Edwards dans les années 1700, suivi de Wesley Whitfield, et dans le même temps Rousseau, Voltaire et Kant, et il n'y aurait pas eu connaissance de César Malan, d'Adolphe Monod des années 1840, nous ne saurions pas d'où viennent les disciples de Joseph Smith, qui s'appellent les Mormons, ou les Adventistes disciples d'Ellen White. Dans ce laps de temps, il y a eu Darwin, Nietzsche, Freud, etc., qui ont marqué la société par leurs pensées. Spurgeon, William Booth, qui a créé l'armée du salut, ou encore Rubin Sayans, qui a écrit de nombreux chants, ne serait pas connu sans parler de Karl Barth, de Heidegger, Martin Luther King, Jean-Paul Sartre, Billy Graham, etc., qui ont tous marqué, en fait, les domaines dans lesquels ils étaient actifs. On ne saurait pas qu'il y a eu deux guerres mondiales et qu'il y a eu un nouveau État d'Israël en 1948, parce qu'en l'an 1600, il n'y avait pas d'État d'Israël. Passer de 1600 à 2000 sans savoir ce qui s'est passé entre deux, c'est de ne pas connaître tout ce que je viens de mentionner et plus encore. Vous comprenez donc que de moins 400 à 0, donc entre Malachie et Jean-Baptiste, il y a eu une histoire. Et c'est notre deuxième point, une période de silence actif. Alors est-ce que la Bible parle de cette période de Malachie à Jean-Baptiste? Que pensez-vous? Certains font comme ça. Moi, je fais comme ça. En fait, c'est oui et non. Dans le sens que la Bible n'a pas une description, comme dans les livres des rois ou le livre des chroniques, de tout ce qui s'est passé dans cette période. Mais il y a des prophéties précises qui ont été données pour cette période dans le livre de Daniel. Voilà pourquoi certains hochent de la tête positivement. Et c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure dans Daniel 2, 35 à 45, où il est question d'une statue avec quatre parties, en or, en argent, en bronze et en fer. Et Dieu donnera encore à Daniel d'autres visions dans les chapitres 7, 8 et 11, où il sera question d'animaux, de bêtes, avec, vous souvenez, un lion, un ours, un léopard et un animal innommable avec 10 cornes. Donc ce sont les quatre royaumes de la statue, c'est les mêmes royaumes que la statue de Nebuchadnezzar. Les quatre royaumes sont pour l'or et le lion Babylone, pour l'argent et l'ours l'empire médo-perse, pour le bronze et le léopard l'empire grec, et pour le fer et l'animal inconnu à 10 cornes l'empire romain. La vue d'ensemble en fait de cette période est résumée par ces quatre royaumes, ou plus précisément par trois royaumes, puisqu'en fait le dernier n'était plus présent du temps de Malachie. Babylone avec Nebuchadnezzar jusqu'à Belshazzar, qui ont croisé Daniel, était là, mais en 539 avant Jésus-Christ, c'est la chute de Babylone, 47 ans après la chute de Jérusalem. Et les Juifs ne sont pas encore retournés en Israël. Et d'ailleurs, Malachie n'est pas encore né. En 539 avant Jésus-Christ, ce sont les Mèdes qui prennent le pouvoir. Puis les Perses deviennent leurs maîtres et leurs alliés. Et dans ce royaume médo-perse, nous connaissons Darius, qui ne voulait pas mettre Daniel dans la fosse au lion. Hein, puis Cyrus, qui a autorisé le retour à Jérusalem pour construire le temple. Donc Cyrus qui avait été annoncé d'ailleurs des centaines d'années précédemment dans le prophète Ésaïe. En retournant en Judée, les Juifs ont importé la langue araméenne. Donc quand ils sont revenus d'exil, eh bien ces Juifs parlaient l'araméen et c'est devenu la langue du peuple. Le peuple parlait désormais l'araméen. Alors l'adoration et les prophéties continuaient à se vivre en hébreu, mais le langage du peuple est devenu l'araméen. Après Cyrus et quelques empereurs, nous trouverons Assuérus ou Xerxès, mari d'Esther, Artaxerxès, l'ami d'Esdras et de Néhémie, et nous arrivons ainsi au temps de Malachie. Alors la période de silence, si vous voulez, prophétique, commence donc dans la période médo-perse jusqu'à la période romaine. Et selon des textes qui ont été écrits dans cette période, dans 1 Maccabée 9, 27, les Juifs savaient que la prophétie avait cessé. Pour eux, c'était clair. La prophétie avait cessé avec Malachie. Esdras, le scribe, a influencé dans cette époque-là la manière de voir les scribes. Hein, parce que, à l'époque, tous ceux qui écrivaient, c'était des scribes. C'est la définition logique et très simple du scribe. Celui qui écrit, c'est un scribe. Mais, petit à petit, suite à Esdras, ce titre vint plus restrictif et désignait en fait une classe de personnes spécialisées d'écrivains qui gardaient, étudiaient et interprétaient la loi en la respectant méticuleusement dans sa lettre, mais négligeant son esprit. Voilà ce qu'est devenu l'appellation scribe. Et c'est donc depuis cette époque, après Esdras, que s'est forgée petit à petit cette notion du scribe. Et deux éléments se mettent en place durant la période perse, deux éléments importants. La première, ce sont les synagogues. Les synagogues, en fait, viennent de l'exil. Quand les Juifs étaient en exil, loin du temple, ils ont cherché une forme simple d'adoration et ils ont créé, en fait, des synagogues. Donc la synagogue, loin du temple, est une forme simple d'adoration donnant beaucoup d'importance à la lecture de la loi. Et tout cela avait été développé en exil et réimporté lors du retour. C'est l'origine des synagogues qui est en fait un petit peu la mère des églises de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est de là que ça vient. Deuxième élément important du temps de cette période perse, c'est une grande importance politique donnée à la charge du souverain sacrificateur. Avant, le souverain sacrificateur n'avait pas une puissance politique telle que celle. C'est du temps perse qu'on a donné une grande puissance politique au souverain sacrificateur. Tout ça, Dieu agissait parce qu'il préparait ce qui allait arriver. Si le souverain sacrificateur n'avait pas cette puissance au temps de Jésus-Christ, eh bien il n'y aurait pas eu les mêmes procès, enfin vous connaissez l'histoire. Mais le royaume perse a une fin lorsque Alex the Great, Alexandre le Grand, entre en 333 en Jésus-Christ, avant Jésus-Christ dans l'histoire du monde et conquiert en fait l'empire perse, médo-perse, qu'il s'empare en 3 ans, donc en 333 et 330, c'est 3 ans, il s'empare de tout l'empire. Et Alexandre, c'est un disciple du philosophe Aristote. Ça commence à faire des liens dans votre tête avec des choses que vous connaissez peut-être. Donc c'est un disciple du philosophe Aristote et il avait bien appris ses leçons. Parce qu'il a considéré et promu durant toute sa vie que la langue, la culture et le peuple grec étaient supérieurs. Et son but est d'influencer tout son empire. C'est ce qu'on appellera l'hellénisation. Vous entendez ce terme hellénisation, c'est en fait amener la culture grecque dans une société. Alors il répand la culture et la langue grecque partout. Il est tolérant avec le judaïsme, parce qu'il aime les écrits anciens, mais il influence considérablement la façon de gérer la politique et la façon de réfléchir aussi du peuple juif. C'est dans cette période-là que le Sanhédrin est créé. Le Sanhédrin est repris du modèle politique grec, hein, du modèle de gestion politique grecque, et cette instance du Sanhédrin va ensuite perdurer. La langue grecque est la langue qui devient internationale, comme au XVIe siècle nous avions le latin, et l'anglais aujourd'hui. Voilà donc un élément aussi important pour l'avenir. La durée du règne d'Alexandre fut assez courte parce qu'il meurt jeune. Et son immense royaume... Alors, je ne sais pas si vous avez un peu les cartes en tête. Bon, dans les documents, vous avez des cartes, donc vous pouvez aussi le voir. Son royaume allait depuis la Grèce jusqu'en Inde. C'est un énorme royaume, hein, qui prend aussi toute la partie, une bonne partie du nord de l'Afrique avec l'Égypte. Quand il meurt, en fait, ce grand royaume est partagé en quatre parties, parce que quatre généraux vont reprendre donc la suite de son commandement. Et nous parlerons uniquement de deux qui auront une influence sur l'histoire d'Israël. Le premier, c'est Ptolémée. Ptolémée, à qui revient le royaume du nord de l'Afrique et de l'Égypte. Or, Ptolémée va créer une dynastie où les rois s'appelleront Ptolémée I, Ptolémée II, Ptolémée III, enfin voilà, vous connaissez la suite, hein, vous pouvez faire le compte jusqu'au dernier. Et les reines s'appelleront Cléopâtre I, Cléopâtre II, etc. Donc c'est dans la dynastie des Ptolémées. Alors les Ptolémées, qui sont d'abord ceux qui ont la régence de la partie d'Israël, eh bien laissent l'autonomie religieuse et une certaine autonomie politique à Israël. Bien sûr, ils prélevaient des impôts, et ils faisaient aussi des travaux publics dans le but d'influencer et de continuer à helléniser cette région, hein, donc à amener cette culture grecque. Et c'est un temps relativement calme pour les Juifs, qui, pour beaucoup, intègrent la culture grecque et vont même facilement s'établir dans tout le royaume grec. C'est dans ces périodes-là que nous avons beaucoup de Juifs qui vont à Alexandrie s'établir, donc en Égypte, et aussi créer plusieurs synagogues dans le nord de l'Afrique. Et c'est dans cette période de l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament est traduit en grec, dans la version que l'on appelle la Septante, LXX. Alors, il y a toutes sortes de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de contes à propos de comment s'est fait cette traduction. Moi, je vais simplement vous dire qu'elle a été traduite à partir de moins 300, donc les textes de l'Ancien Testament en grec, et les apocryphes se sont ajoutés petit à petit. Et c'est l'Ancien Testament grec qui était présent du temps des apôtres et de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Donc quand on vous parle de la Septante, c'est LXX, c'est Septante en grec en fait, hein, pour qu'on se souvienne de cette version-là. Donc, le premier général Ptolémée, ça va, vous suivez un peu, ou bien vous faites l'histoire un peu aujourd'hui, hein, qui avait donc ce nom, mais c'est important, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées, qui ont des influences dans le Nouveau Testament. Hein. Donc Ptolémée, l'Égypte, nord de l'Afrique, donc il s'occupait d'Israël pendant une certaine période. Le deuxième général d'Alexandre le Grand, qui nous intéresse, a fondé la dynastie des Séleucides. Ça, c'est au nord. Les Séleucides qui comprend l'Asie mineure et qui va jusqu'en Inde. Donc l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Hein. Et sa manière d'héléniser, petit à petit, ou la manière de la dynastie d'héléniser, petit à petit devient agressif. Alors au début, ils ont de bons rapports avec les Juifs hellénisés. D'ailleurs, ils les invitent à venir dans des villes qu'ils créent en Asie mineure. Voilà pourquoi il y a bien des Juifs qui sont en Asie mineure, on trouve des synagogues dans chaque ville d'Asie mineure. Et Paul, par la suite, trouvera dans chaque ville, en fait, une synagogue qui sera la base de son ministère missionnaire sur place. Mais petit à petit, les rois séleucides s'enorgueillissent et se font adorer comme des dieux. Voilà pourquoi Antiochus IV est appelé Épiphane, qui signifie qui est apparu, qui est lumineux, qui est illustre. Et s'il se donne ce nom-là, Antiochus Épiphane, c'est pour indiquer à tout le monde qu'il fait partie des dieux grecs. Alors Antiochus Épiphane va prendre Jérusalem en 198 avant Jésus-Christ au Ptolémée. Donc là, il y a toujours un combat entre ces deux royaumes pour reprendre hein, des territoires. Et là, ils reprennent Jérusalem et il accentue l'hellénisation et il nomme un souverain sacrificateur. Vous vous souvenez, l'époque perse, souverain sacrificateur est une puissance politique, c'est lui qui régnait un petit peu, si vous voulez. Eh bien, il nomme un souverain sacrificateur qui travaille pour lui. Quelques années plus tard, Antiochus Épiphane va descendre en Égypte parce qu'il veut conquérir toute cette partie. Hein. Et puis, ben là, il est défait, il connaît la défaite, et il rentre un peu frustré de cette défaite, et il revient par Jérusalem, où on pensait peut-être qu'il était mort, et il y a eu un changement de pouvoir. Donc on a donné un souverain sacrificateur autre que celui donc nommé par Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane, en rentrant, apprend cela, il est fou de rage, il vient écraser la révolte, détruit la muraille de Jérusalem. Un temps vraiment noir pour le peuple juif. Antiochus Épiphane, ensuite, déclare que désormais, ce sera Zeus qui sera adoré dans le temple, où il interdit le culte de l'Éternel, et il ira jusqu'à sacrifier un porc sur l'autel des sacrifices, ce qui équivaut en fait à un viol spirituel. C'est l'abomination décrite dans Daniel 11:31. Ça fait les liens avec ces prophéties. Donc Antiochus Épiphane déclare que désormais ce sera Zeus qui sera adoré dans le temple, où il interdit le culte à l'Éternel, et il ira jusqu'à sacrifier un porc sur l'autel des sacrifices, ce qui équivaut à un viol spirituel. C'est l'abomination décrite dans Daniel 11:31. Il pousse les gens, enfin, il va d'un village en village pour faire sacrifier, en fait, au dieu grec. Il pousse. Or, comment est-ce qu'il veut que les juifs ne soient plus juifs ou ne soient plus le peuple de Dieu? Eh bien, il leur dit, vous ne faites plus circoncire, donc plus de signes de l'alliance. Vous ne respectez plus le sabbat, donc plus de différence avec les gens du monde, avec le peuple hellénique, etc. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là qui sont mises en place. Ça ressemble quand même pas mal à des situations où on veut enlever le christianisme aussi. Mais une famille de sacrificateurs, qu'on appelle les Asmonéens, menée par leur chef Mattathias, décide de s'opposer au sacrifice païen qui est demandé dans toutes les localités. Alors Mattathias, avec ses 5 fils qui se rangent derrière lui, vont organiser la guérilla, et bien des batailles vont être vécues contre ces Syriens. Donc on appelle les Syriens le royaume séleucide. Et ces batailles, c'est vrai, quand je lisais un peu tout ça, ça m'a fait quand même pas mal penser aux Camisards à l'époque des Huguenots. Hein, on avait aussi cette sorte de guérilla contre ceux qui voulaient éliminer ceux qui aimaient la parole. Judas, l'un des fils de Mattathias, a un surnom qui est Maccabée. C'est son surnom. Bon, il y a aussi toutes sortes d'histoires sur ce surnom. Si on regarde dans le livre des Maccabées, il est dit qu'il l'a reçu à la naissance. Voilà. Et il libère Jérusalem, il va purifier le temple, pour reprendre le culte en 164 avant Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que la fête Hanouka, qui veut dire inauguration, est célébrée pour la première fois. Cette fête est aussi appelée la fête de la dédicace ou la fête des Lumières. Alors juste par rapport à la lumière, il y a une petite histoire assez drôle qui se passe à cette époque-là, c'est qu'ils ont purifié le temple et ils ont repris le candélabre, vous savez, c'est ce chandelier avec les 7 branches, hein, où ils ont voulu remettre la lumière, et ils ont trouvé une petite fiole d'huile, parce qu'il fallait une huile spéciale qui était préparée par des prêtres sanctifiés. Hein. Et ils ont trouvé une petite fiole d'huile, ils ont allumé le candélabre, et normalement ça devait durer un jour, ou peut-être même pas, avec cette petite fiole, et en fait la lumière a duré pendant 8 jours, les 8 jours de fête de cette dédicace au temple, eh bien cette lumière a brillé, ce qui a donné aussi le temps de se purifier rituellement et de refaire de l'huile sainte pour utiliser ensuite pour le candélabre. Donc ça, c'est la petite histoire du miracle qui s'est passé à ce moment-là, qui fait qu'on appelle parfois la fête de la dédicace la fête des Lumières. C'est non sans rappeler aussi que Jésus-Christ a fait référence à cette lumière quand il a dit « Je suis la lumière du monde ». Voilà, donc cette fête de la dédicace ou des lumières est instituée par Judas Maccabée après la purification du temple. Antiochus Épiphane l'avait profané, Judas Maccabée et donc toute son équipe ont réagi et donc ont purifié ce temple et cette fête donc a été mise en place. Ça va, vous êtes toujours là? Alors on continue, alors on est avec les Maccabées. Donc je vous fais grâce de beaucoup de détails, hein. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais ça nous permet d'avoir des points un petit peu clés, surtout pour vous faire des liens avec Dieu a agi et préparé pour ce qui se passera dans le Nouveau Testament et ce que nous y lisons. Les Maccabées, aussi appelés les Asmonéens, se libèrent de l'Empire grec, et pendant environ 100 ans, ils sont quasi autonomes. Et là, ils conquièrent la Samarie, puis la Galilée, et d'autres territoires, comme la Décapole, les 10 villes, ça vous dit peut-être quelque chose dans le Nouveau Testament. Et en fait, en conquérant ces différentes parties, ils cherchent à judaïser ces différentes parties. Et c'est à cette période, d'ailleurs, que le temple, en Samarie, il y avait un temple. Les Samaritains suivaient le Pentateuque, pas le reste de l'Ancien Testament. Et ils avaient un temple à Garizim. Et c'est dans cette période-là, en fait, que le temple a été détruit par donc la lignée des Asmodées, ou des Maccabées. Et donc, ce temple est détruit le jour où Jésus discute avec la Samaritaine, hein, quand elle lui demande « Où adorerons-nous l'Éternel ?» C'est aussi dans cette période que naissent les différents partis, hein, les pharisiens, les juifs traditionalistes qui défendent la pureté du judaïsme face aux juifs hellénisés. Et ils créent au fil de temps des traditions anciennes. Donc quand Jésus parle de traditions anciennes, il n'y a pas de trace dans l'Ancien Testament de traditions anciennes. Ce sont ces traditions-là dont il est question dans ses discours. Nous avons le parti zélote qui cherche l'indépendance politique qui est créée dans cette période grecque et asmodéenne. Le parti essénien qui désire restaurer le souverain sacrificateur légitime. Évidemment, on a mis un souverain sacrificateur politique. Eux, ils désirent de nouveau une lignée d'Aaron qui fasse son travail comme Dieu le veut. Ça, c'est les Esséniens. L'histoire passe, comme je dis, je vous fais grâce de beaucoup de détails. Et en 63 avant Jésus-Christ, deux frères asmonéens sont en conflit pour le pouvoir. Les deux veulent être rois. Mais ils ne peuvent pas être deux rois. Donc, l'un de ces deux va chercher de l'aide auprès de Pompée. Voilà que l'Empire de Rome arrive, hein. Il va vers Pompée et lui demande de venir arbitrer, là, en Cédure. Alors, Pompée, lui, est tout content, il arrive, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il annexe le territoire à Rome. Alors, il y a toute une histoire avec les deux frères que je ne vais pas maintenant regarder avec vous, parce que Pompée est un stratège politicien, mais il prend donc ça sous l'égide de Rome. Et c'est intéressant parce que Rome avait l'habitude de placer des rois dans différents endroits qui, eux, étaient responsables, en fait, de la situation politique du coin, et de prendre les impôts et de les envoyer à Rome. Et ces rois, en fait, n'ont pas la même puissance que Rome. C'est ce qui est représenté par les pieds d'argile et de fer, hein, si jamais dans la statue. Voilà pourquoi on a ces notions d'argile et de fer. Donc là, après plusieurs rebondissements, Hérode, que les Romains ont désigné comme roi, prend totalement le pouvoir militairement avec l'appui de Rome en 37 avant Jésus-Christ. Hérode, d'ailleurs, a un lien avec les Asmodéens parce qu'il s'était marié avec Mariam, la sœur des deux qui voulaient régner. Il y a toute une histoire, toute une intrigue là-dedans. La Palestine est partagée en trois, la Judée, la Samarie et la Galilée. Trois entités séparées. Tout est prêt pour la venue de la pierre qui se détache de la montagne du rêve de Daniel. Et ce deuxième point nous a fait voyager dans l'histoire, nous a permis de comprendre que, entre le temps de Malachie et de Jean-Baptiste, ce n'est pas vide. Et je vous ai dit, j'ai donné que quelques points de repère. Dieu agit en faveur de son peuple. Et à plusieurs reprises, il l'a même protégé de la destruction. Antiochus Épiphane aurait voulu détruire ce peuple. Dieu ne l'a pas permis. C'est un exemple. Il a permis des victoires extraordinaires, avec des milliers de soldats qui arrivent, un petit peuple qui gagne. Dieu a agi. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit, Israël, dans l'Ancien Testament, c'est le berceau du Christ, du Messie. Ce berceau ne pouvait pas être détruit, sinon Christ ne pouvait pas arriver. Dieu a agi de façon extraordinaire pour préparer la venue de Christ. La venue du Messie, ce roi d'un autre royaume qui couvrira toute la terre. Et il est temps de passer à notre troisième point que j'ai intitulé « Le temps est accompli, tout est prêt ». On a lu Galates 4, versets 4 et 5, et je pense qu'il parle de cela dans Galates. Il dit « Mais lorsque les temps furent accomplis », voilà, on vient de passer ces temps ensemble maintenant, « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. » Le temps est accompli, tout est prêt, et Dieu ne retardera pas la venue de Jésus-Christ, tout comme il ne l'a pas non plus avancé. Dieu ne retarde pas la venue de Jésus-Christ, tout comme il ne l'a pas avancé. Et il en sera exactement de même lors de son avènement. C'est exactement la même chose lors de son avènement qui nous semble imminent depuis le premier siècle. C'est vrai, depuis le premier siècle, on est dans les derniers temps. C'est imminent. Quand tout sera prêt, il n'y aura pas de retard, ni d'avance, ça sera exactement à ce moment-là que l'avènement de Christ se manifestera. Mais qu'est-ce que Dieu a accompli durant ces temps avant la venue de Christ? J'aimerais simplement prendre quelques petites questions. Là, c'est des petites questions pratiques auxquelles nous pouvons maintenant répondre ayant fait le survol de l'histoire intertestamentaire. Alors, je pourrais venir vers vous, vous poser la question. Si vous avez bien écouté tout à l'heure, vous pourriez répondre. Alors, par exemple, pourquoi Jésus parlait-il l'araméen et pas uniquement l'hébreu? Eh bien, nous avons vu que lorsque les Juifs sont revenus de Babylone, ils ont importé cette langue qui est restée la langue du peuple jusqu'au temps de Jésus. C'est un reste de l'empire babylonien. Voilà la raison. C'est pour ça qu'on, dans Marc, il prend même des termes araméens que Jésus utilise. Une autre question, pourquoi parle-t-on des scribes dans le Nouveau Testament et qui sont-ils? Souvenez, période perse après Esdras, hein? Nous avons vu que cela remonte à la période d'Esdras où ce titre a été réservé à une classe spécialisée dans la garde, dans l'étude et dans l'interprétation de la loi qui respectait méticuleusement la lettre mais négligeait son esprit. Et c'est ce que nous devons avoir en tête lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament que les scribes venaient vers Jésus. Ce n'était pas simplement ceux qui écrivaient, c'était ces scribes-là. Ok? Ensuite, pourquoi le Nouveau Testament est écrit en grec et pas en hébreu ou en araméen? De nouveau, nous avons vu que Alexandre le Grand et ses successeurs ont hellénisé le monde. Ainsi, la langue internationale est le grec pour tout le monde. Dieu a préparé cela afin que sa parole puisse se répandre partout. Pourquoi, une autre question, pourquoi ne trouvons-nous pas de traces de la fête de la dédicace mentionnée par exemple dans Jean 10, 22 dans l'Ancien Testament? Ben, parce que cette fête a été établie pendant ces 400 ans. Hein, vous vous souvenez, dans Judas Maccabée, qui avait purifié le temple, qui a été profané par Antiochus Épiphane, où il y avait placé une idole de Zeus, et même sacrifié un porc, c'était un animal impur, hein, c'était vraiment terrible. Et là, il y a eu la purification, recommence l'adoration de Dieu et la fête de la dédicace. Seulement quelques éléments pour souligner tout ce que Dieu a préparé. Sans vous parler des centaines de prophéties qui se sont accomplies dans le premier siècle lors de la venue de Jésus-Christ. Dieu a annoncé exactement les royaumes qui allaient venir avant Jésus-Christ. Tellement exactement que plusieurs n'arrivent pas à croire que ça a été écrit avant. Il y a des personnes qui disent maintenant, non, ça a été écrit après en fait. On a repris l'histoire puis on a écrit la prophétie de Daniel. Et pourtant, c'est Daniel qui les a écrits. Des centaines d'années précédemment. Pas parce que Daniel était meilleur que les autres, parce que Dieu a parlé à Daniel, ce Dieu de l'histoire qui contrôle toute cette histoire. Le royaume de Dieu, qui était annoncé par Dieu, est manifesté dans le monde par Jésus-Christ. Et actuellement, en 2021, il est manifesté par les églises qui sont les ambassades de ce royaume, qui sera pleinement manifesté lors de la venue de Christ sur terre. Alors, quelle application pouvons-nous faire de tout ce que nous avons entendu ce matin? Alors, j'espère, parce que je vous encourage à faire tout le temps comme ça, que lorsque vous entendez une prédication, il y a plein d'éléments qu'on entend dans la prédication, on se dit, ah, comment est-ce que je peux le vivre dans ma vie? Donc, vous en avez déjà peut-être beaucoup des applications. Mais je vous en propose une ou l'autre. Les thèmes du message des 12 prophètes, vous rappelez ces thèmes, hein, le jour de l'Éternel, la compassion de Dieu et l'appel à la repentance, restent les mêmes pour nous encore aujourd'hui. Le jour de l'Éternel est proche. Repentez-vous et manifestez d'une manière réelle que vous vous êtes repenti et que vous vous soumettez à Dieu. La période intertestamentaire nous indique aussi que si Dieu ne nous donne pas de nouvelles révélations bibliques, comme c'est le cas actuellement, il agit et prépare le retour de Christ. Faisons-lui donc confiance en vivant fidèlement. Je vous assure qu'il y a des situations qui se sont passées dans les Maccabées. Par exemple, c'est 2 Maccabées 7, ou 1 Maccabée 7, si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 7. On a une histoire mais incroyable de la fidélité, malgré des tortures, des situations dramatiques, sont restés fidèles à l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'espérance d'une vie éternelle. Ils savaient que cette vie ici-bas était courte et que la vie éternelle avait toute sa valeur. Et bien que cela puisse être pour nous aussi un élément clé dans notre vie. Et sachant que Dieu délivre les fidèles tout au long de l'histoire, évitons tout ce qui ne manifeste pas la fidélité à Dieu. Vous vous souvenez, Antiochus Épiphane disait, profanez le sabbat, ne vous circoncisez pas, etc. N'adorez pas l'Éternel ou ne le faites pas d'une manière qui est dit dans la Bible, etc. Eh bien, évitons tout cela. Le signe d'alliance actuelle, c'est le baptême. Celui qui ne se fait pas baptiser dans la situation de ceux qui rejetaient aussi cette notion de l'alliance. Donc, sachant que Dieu délivre les fidèles tout au long de l'histoire, évitons tout ce qui ne manifeste pas la fidélité de Dieu, heureux d'être dans sa forteresse éternelle. Alors, quand le temps sera accompli, que tout sera prêt, sa gloire se manifestera. Es-tu prêt? Nous allons prier. Éternel, nous voyons que tu es un Dieu qui est juste extraordinaire. Nous pourrions croire en lisant ta parole, sans être trop attentifs, qu'il y a eu 400 ans où tu étais absent. Tu ne savais pas ce qui se passait, tu n'intervenais pas. Nous avons pu aujourd'hui, dans une certaine mesure, voir que, c'est pas du tout le cas. Tu avais annoncé toutes ces choses, précisément, et même dans ce temps-là, tu as été actif. Tu as même permis des fêtes qui restent, qui manifestent ta grâce, ta bienveillance, le renouvellement de ton culte. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui a tout préparé. Jésus-Christ est venu au bon moment. Il n'a pas eu de retard ni d'avance. C'est comme dans nos vies, Seigneur. Tu n'as jamais de retard ni d'avance. Tu es toujours là au bon moment. Tu agis au bon moment. Et j'aimerais te prier que nous puissions être ces personnes qui sont confiantes en toi. Ces personnes qui sont capables aussi de discerner que tu as annoncé des choses. Que nous ne sommes pas surpris. Tout en n'étant pas dans une situation d'une compréhension totale. Mais Seigneur, nous sommes paisibles en toi. Parce que nous savons que tout est dans ta main. Et que tu désires que nous vivions fidèlement là où nous sommes maintenant, en 2021. Et Seigneur, tu nous en donnes la force et la grâce, et nous avons un avantage énorme, immense, face à toute cette période avant Jésus-Christ. C'est que l'Esprit de Dieu habite en ceux que tu as transformés. Quelle grâce, Père, nous voulons te dire merci. Et j'aimerais te prier pour ceux qui, ici, ne vivent pas cette œuvre de l'Esprit dans leur cœur. Que tu puisses, Seigneur, agir dans leur cœur. Je remets aussi ceux qui le vivent, mais qui ne l'ont pas manifesté publiquement. Seigneur, travaille leur cœur afin qu'ils comprennent l'importance de le faire. Et j'aimerais, Seigneur, te prier pour tous ceux qui se réjouissent de cette œuvre de l'Esprit dans le cœur, qui l'ont manifestée publiquement, que nous puissions être fidèles, Père. Nous nous rendons compte que nous sommes bien faibles souvent, que le monde nous attire encore tellement, que, entre guillemets, l'hellénisation nous attire tellement. Donne-nous cette grâce, Seigneur, d'être fidèles à ta parole. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.